Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, il est presque 7h19.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Le 16 septembre dernier, la jeune Mahsa Amini trouvait la mort dans des conditions suspectes après avoir été arrêtée par la police des mœurs iraniennes qui lui reprochait de ne pas avoir correctement porté son voile. Plus de 2 mois plus tard, la colère est toujours intacte et les protestations ne faiblissent pas en Iran. En première ligne, la jeunesse iranienne et les femmes qui paient un lourd tribut face à une répression implacable. Mais cette révolution qui ne dit pas encore son nom et qui secoue la République islamique, sonne-t-elle le glas du régime des Mollahs? Nous posons la question à David Rigoulet-Rose, il est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Il est également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il est notre invité ce matin en direct. Bonjour.
Bonjour.
L'Iran bascule-t-il vers une révolution ou vers une crise plus importante qui pourrait déboucher sur une guerre civile?
En tout cas, il y a un processus qui est à l'œuvre, qui est clairement une dynamique qui est révolutionnaire. On est passé d'un stade de contestation lié à l'épisode tragique de la mort de Mahsa Amini à une succession de manifestations récurrentes qui n'ont pas cessé en dépit de la répression. Et aujourd'hui, effectivement, on peut s'interroger, on peut se demander si on n'est pas proche d'un point de bascule, dans la mesure où clairement ça prend la forme potentielle d'un processus révolutionnaire.
Malgré la répression, justement, on a le sentiment que la rue est en train de gagner face à ce régime iranien très dur.
Le régime iranien, le problème, c'est qu'il est pas, il comprend pas en fait ce qui se passe. Il a un logiciel qui est toujours le même, c'est la répression quand il y a des contestations. On l'a vu lors des précédents mouvements, notamment en 2018, 2019, où il y avait une répression. C'était lié à, on va dire, à un événement particulier, en l'occurrence l'augmentation du prix de l'essence, et ça touchait des segments de la population. Là, ce qui est nouveau, c'est que en réalité, c'est une crise profonde sociétale qui s'est focalisé sur la question du voile avec la mort de Mahsa Amini, mais qui finalement s'est développé à travers ce problème spécifique qui est finalement dans l'ADN de la République islamique, par une remise en cause des fondements même de cette République établie en 1979 sur des préceptes religieux, une stricte discrimination des sexes, et là en l'occurrence avec la répression contre les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont les principales victimes. Finalement, toute la société, c'est une onde de choc dans l'ensemble de la société iranienne.
Quand on voit les images qui nous parviennent et quand on entend les témoignages des Iraniens, des jeunes Iraniens, vous le soulignez à l'instant, on se dit que la résignation et la peur ont fait place finalement à une grande détermination et à une volonté parfois même affirmée de renverser le régime, quel qu'en soit le prix à payer, certains le paient cher.
Oui, c'est inédit effectivement, parce que dans les précédents mouvements de contestation, il y avait quand même une logique dissuasive induite par la répression qui était féroce, plusieurs centaines de tués. Mais là, en l'occurrence, c'est comme si la peur avait changé de camp. Et le régime, en fait, n'arrive pas à comprendre, parce qu'il est confronté à c'est un peu la génération Z qui effectivement est intransigeante, n'entend pas céder. Malgré les risques, ils sont soutenus finalement par les parents qui eux n'ont pas pris ce risque-là les décennies précédentes. Donc il y a une logique effectivement qui met le régime en porte-à-faux. En réalité, il est totalement déconnecté de sa population et il n'a pas la solution pour gérer le problème. On le voit bien, il semble par moments dépassé par les événements.
On voit aussi ces images, là encore, qui nous parviennent de jeunes qui marchent dans la rue, qui enlèvent le turban de certains mollahs, qui jouent parfois au foot avec. On a le sentiment aussi d'une grande forme de provocation, d'aller chercher quelque part cette provocation pour montrer simplement le refus de ce régime théocratique.
Ah oui, tout à fait. C'est un nouveau jeu, effectivement, qui consiste à enlever le turban quand les membres du clergé se promènent dans les rues. Ça fait partie effectivement de, c'est l'expression, une des expressions de cette contestation de, du régime finalement théologico-politique de la République islamique. Et clairement, c'est les fondements de cette République qui sont attaqués, parce que la jeunesse, en réalité, elle s'intéresse pas à cette question de la religion. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a effectivement un gouvernement qui est hors sol par rapport à sa population, qui est largement sécularisé aujourd'hui, qui a des aspirations de liberté de toutes les jeunesses du monde en réalité, très ouvert sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un enjeu pour le gouvernement, les autorités, pour contrôler ces réseaux sociaux, même s'ils n'y arrivent pas totalement, puisqu'il y a des vidéos qui sortent. Et là, effectivement, il y a de la part de cette jeunesse des aspirations qui sont absolument pas comprises par ceux qui dirigent, qui sont dans une forme d'autisme et qui s'enferment, en fait, dans leur logiciel répressif, sans pour autant parvenir à réduire le mouvement.
Quand je parlais tout à l'heure des images qui nous parviennent, c'est vrai que finalement les réseaux sociaux passent au-dessus de la censure, ce qui nous permet aussi de voir des images terribles comme ce jeune homme qui est battu à mort, qui est abattu même dans une entrée d'immeuble avec des personnes qui filment et qui osent dire oh là là, c'est horrible, mon Dieu, on n'aurait pas imaginé ça il y a encore quelques années.
Non, c'était effectivement pas imaginable. D'ailleurs, tout le monde est quand même surpris par la détermination des contestataires, y compris d'ailleurs les parents de ces jeunes, qui sont eux-mêmes surpris parce qu'ils n'ont jamais osé faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et donc, malgré la censure, effectivement, les Iraniens sont très efficaces pour contourner la censure. Ils passent par des VPN. Et ils arrivent quand même à faire sortir effectivement des vidéos qui donnent des informations et sur le caractère terrible de la répression, notamment dans deux régions, dans les périphéries, Sistan-Baloutchistan et le Kurdistan, dont était originaire Mahsa Amini, comme par hasard. C'est là où la répression est la plus féroce en ce moment, puisqu'ils tirent à l'arme lourde dans les villes kurdes.
D'un point de vue politique, que peut-il se passer si demain les dirigeants de la République islamique d'Iran venaient à être renversés? Quelles pourraient être les conséquences, par exemple, au niveau international?
De toute façon, ça a déjà des conséquences considérables. L'Iran a toujours été, dans le monde musulman, un pays d'exemple, qui fait précédent, soit en termes positifs, avec la révolution constitutionnelle au début du XXe siècle, soit en termes négatifs avec l'ayatollah Khomeini en 1979. Donc, de ce point de vue-là, ce qui se passe en Iran est fondamental pour l'évolution de la région et potentiellement au niveau international, parce que c'est un grand pays de plus de 80 millions d'habitants, pays pétrolier, riche, potentiellement normalement, même s'il ne peut pas exploiter ses ressources. Donc, ce qui se passe là-bas, évidemment, a un enjeu considérable, et tout le monde en est conscient. Ça explique d'ailleurs une certaine prudence des chancelleries, notamment occidentales, par rapport au déroulé de ce qui se passe, parce qu'il y a un grand point d'interrogation sur la suite, effectivement, dans le cas où il y aurait effectivement un renversement du régime, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il y a un potentiel point de bascule, et c'est vrai que là, on retrouve aussi les inquiétudes iraniennes, qui ont peur de la guerre civile. Ils veulent pas une nouvelle révolution, même s'il y a un processus qui ressemble à une révolution, tout simplement parce qu'ils ont en tête les printemps arabes, l'échec des printemps arabes, et c'est là-dessus que joue le régime, justement, pour se maintenir, en pensant qu'il y aura des inhibitions de sa population pour éviter de rentrer dans un dans un point d'interrogation sur le devenir.
On sait que l'Iran fournit aussi des armes à la Russie, par exemple des drones en particulier, on les a vus hélas à l'œuvre dans le ciel ukrainien. Est-ce que par répercussion ça pourrait changer le cours de la guerre justement en Ukraine?
Alors les drones ne changeront pas le cours de la guerre, simplement le fait que l'Iran fournisse, assez ironiquement d'ailleurs, la Russie, qui n'a pas de filière de drones kamikazes, montre qu'il y a un rapprochement, une solidarité finalement des régimes sous sanctions, d'une certaine manière les deux régimes ont destin lié. Et c'est assez singulier de voir effectivement ce qui se passe de ce point de vue là. Les drones ne changeront pas évidemment le cours de la guerre, en revanche c'est quand même l'expression d'un renforcement de la coopération entre les deux pays, et notamment par rapport au complexe militaro-industriel. Donc de ce point de vue là c'est une manière aussi de marquer pour l'extérieur que ces pays ne sont pas isolés et qui sont et qui font montre d'une solidarité sans faille.
Ça peut être un coup dur pour la Russie si des fois l'Iran ne fournissait plus des drones, par exemple.
Oui, alors l'Iran envisage d'aller au-delà, hein, puisqu'on parle éventuellement de missiles qui seraient livrés pour compenser justement la diminution des stocks russes. Donc il y a en tout cas clairement un engagement, malgré les dénégations initiales de Téhéran, qui avait dit que les drones avaient été livrés avant la guerre. En réalité, ça ne trompe personne. Et donc ça renforce aussi l'isolement de l'Iran par rapport aux Européens. Parce que jusque-là, les Européens avaient adopté une stratégie prudentielle, notamment dans le cadre des négociations sur le nucléaire. Aujourd'hui, c'est fini, clairement. Il y a des logiques de sanctions qui se mettent en place, y compris de la part des Européens et plus seulement des Américains, puisque les entités et les personnes responsables de la répression sont visées directement par des sanctions. Les dernières ont été formulées le 14 novembre de cette année. Donc il y a effectivement un isolement croissant de l'Iran, et ça suscite aussi des inquiétudes par rapport au nucléaire, parce que manifestement il y a une fuite en avant aussi qui est axée sur cette question.
David Rigoulet-Rose, il nous reste une petite minute. Plus largement, outre l'Iran, on voit des pays comme la Chine subir des révoltes de la part de leur peuple pour des raisons différentes. Est-ce que c'est le début d'un mouvement de fond, d'une aspiration à la démocratie, au respect des libertés individuelles que l'on voit poindre un petit peu partout dans les dictatures, n'ayons pas peur des mots?
Oui, je crois qu'il faut être prudent, pas mettre toutes les situations sur le même plan, même s'il y a des similitudes, effectivement, en termes de contestation de la part des populations par rapport à une chape de plomb de certains régimes. La situation en Chine n'est pas la même. Il y a un auto-isolement de la part de la Chine par rapport à la question du Covid. La Chine n'est pas un régime en fin de partie, alors que dans le cas de l'Iran, la question est tout à fait différente. Mais ce qui est incontestable, c'est que tous ces régimes, effectivement, assez peu démocratiques, se retrouvent confrontés à un moment donné à des revendications de leur propre population, qui ont des aspirations dont ils ne peuvent pas faire l'économie totalement. Alors après, les réponses évidemment varient, mais effectivement, il y a de ce point de vue-là des symptômes qui sont intéressants, mais qui ne signifient pas forcément que ça sera à terme que le modèle démocratique tel que on l'a conçu en Occident a vocation à se déployer sur l'échelle de la planète sans prendre en compte les spécificités nationales.
David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, était notre invité ce matin en direct sur l'antenne de Bretagne 5 pour parler de l'Iran et de la situation en Iran. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.